Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La note finale de l'épisode précédent ne fait pas augurer avec le cœur léger de ce qui peut arriver à ceux qui parlent ou qui s'adressent à ceux qui les connaissent déjà. Mais Jésus en les a envoyés, ses apôtres, au-delà des frontières. C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, on assassine Jean le Baptiste. Puis les apôtres reviennent autour de Jésus qui va les faire aller dans un endroit calme où on multipliera les pains. La traversée du lac donnera naissance à un épisode extraordinaire qui les frappera. Et puis nous verrons comment nous allons terminer cet épisode. Allons-y.
Le roi Hérode finit par entendre parler de Jésus qui devenait de plus en plus célèbre dans son royaume. Mais en fait, la rumeur racontait n'importe quoi. C'est Jean le baptiseur qui est revenu de chez les morts et qui s'est réincarné en lui. En effet, Hérode, ou plutôt Hérodiade, sa maîtresse, avait réussi à lui faire trancher la tête pour le faire taire. D'autres assuraient « C'est le prophète Élie lui-même ». Certains disaient simplement « Il ressemble à un prophète ». Lui, Hérode, soutenait que c'était Jean dont l'assassinat le hantait et que son remords lui rappelait sans cesse. Ces paroles qui résonnaient dans sa tête plus fort que jamais « Tu n'as pas le droit de coucher avec la femme de ton frère Philippe ». La haine d'Hérodiade, que seule l'amitié qu'Hérode éprouvait pour Jean, avait empêché d'arriver plus tôt à ses fins. Ses entretiens avec lui au fond de son cachot et sa perplexité quand il l'écoutait parler d'un royaume inédit. Hérode ne pouvait oublier, le jour de son anniversaire, l'immense banquet offert à l'aristocratie de Galilée, la danse ensorcelante de Salomé et sa stupide promesse de lui accorder tout ce qu'elle demanderait. « Jusqu'à la moitié de mon royaume » avait-il surenchéri dans sa vanité. « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Jean le baptiseur. » Voilà ce qu'Hérodiade, mère de Salomé et maîtresse d'Hérode, avait inspiré à la superbe jeune fille. Et pour ne pas perdre la face, il avait surmonté son horreur pour rester lâchement fidèle à sa promesse fanfaronne. Jamais il ne pourrait oublier le spectacle de cette tête qu'on remit à Salomé, qui elle-même la transmit à Hérodiade. Hérode avait quitté ce banquet pour aller vomir. La fête était bien finie. Le lendemain, les compagnons de Jean étaient venus récupérer son cadavre pour l'ensevelir dignement. Durant ces événements, les 12 compagnons de Jésus, qu'on appellera les disciples ou les apôtres, étaient en mission à travers le pays. Après quelque temps, ils revinrent après de celui qui les avait envoyés pour lui rapporter tous leurs faits et gestes. C'est Jésus lui-même qui les accueillit. « Venez tous, venez vous retirer et vous reposer un peu. » Les mouvements, en effet, se succédaient à une allure telle qu'on ne trouvait même plus un instant tranquille pour manger. Tout le monde s'embarqua donc pour un lieu à l'écart de tout. Malheureusement, on les vit partir et on les reconnut si bien que toutes les agglomérations du rivage, le bouche à oreille, mit en route des groupes inconditionnels qui étaient déjà là à les attendre quand ils mirent pied à terre. En voyant tous ces gens, Jésus fut pris de pitié. C'est comme des moutons sans berger. Il laissa de nouveau son cœur parler et se livra une fois de plus à la multitude qui voulait l'écouter. Le temps passait, Jésus parlait, les gens ne bougeaient pas. Il était déjà assez tard quand ses compagnons s'approchèrent de Jésus pour lui faire remarquer. « Regarde, on est loin de tout ici, et tu as vu l'heure qu'il est ? Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs se procurer de quoi manger. » Mais Jésus, le sourire aux lèvres, leur répliqua, « Vous n'avez qu'à leur donner à manger vous-même. » « Mais où courir acheter assez de pain ? Vous en avez déjà combien ? Allez voir. » Après une recherche rapide, ils lui dirent, « 5 et 2 poissons. » « Eh bien voilà. Répartissons-les en groupe et faites-les asseoir sur l'herbe. » Et les gens, comme si tout cela allait de soi, s'allongent en rangées de 100 et de 50. Ah, il fallait voir le spectacle! Et puis voilà que Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel, il bénit et partage les pains, et il les passe à ses compagnons pour qu'ils les servent. Alors il se met à répartir les poissons de la même manière, et tous mangèrent à satiété. Et pour que rien ne se perde, on ramassa enfin les morceaux, et on en remplit 12 couffins, encore 12. Il restait même du poisson. Les témoins dirent qu'il y avait bien 5000 personnes. Fatigués qu'ils étaient déjà, les compagnons sont maintenant complètement abasourdis. Ils ont obéi comme des automates. Jésus s'aperçoit qu'ils n'en peuvent plus. Vite, il les pousse à remonter dans la barque pour le précéder plus loin sur la rive, à Bethsaïda, lieu dit la pêcherie au nord du lac, pendant que lui-même se chargera de congédier la foule. La barque s'en va, il renvoie les gens, et le voici qui grimpe à grandes enjambées sur une colline toute proche pour prier en paix. La nuit tombe vite, la barque est toujours au milieu du lac. Il la voit depuis le promontoire où il s'est isolé. Les compagnons s'épuisent à ramer contre le vent, leurs pensées ne le quittent pas. Juste avant le jour, il n'en peut plus de les laisser seuls, et comme il a hâte de les retrouver, voilà qu'il va à leur rencontre en se déplaçant sur la mer. Oui, vous avez bien entendu, il marchait sur l'eau. Il voulait même les dépasser. Et l'apercevant à leur hauteur, les pauvres compagnons sont pris de panique. Trop, c'est trop, ils se mettent à pousser des cris d'épouvante. Et mon Dieu, il y a de quoi ? Jésus se rend compte qu'il leur en demande vraiment beaucoup. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur, leur crie-t-il, en venant monter à son tour dans la barque. Au même moment, le vent tomba, et les 12 étaient blêmes. Pour les pains déjà, ils n'avaient pas compris, et maintenant, leur cœur, c'est leur cœur qui demeurait fermé. La traversée se termina dans un silence formidable. On aborda à Ginésar, ou Génézareth, qui donnera le nom actuel de Kinneret, mais à peine débarqué, Jésus fut reconnu et tout reprit. La petite troupe retraversa tout le pays. Les gens se renseignaient sur sa route de village en village et on amenait sur des grabats à bout de bras dans des charrettes tous les malades de la région. Où qu'il arrivât, les infirmes étaient installés en plein marché et ils le suppliaient de leur laisser toucher seulement la tresse de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Immanquablement au rendez-vous, quand il s'agissait d'espionner les moindres allées et venues de Jésus et de ses compagnons, pharisiens et scribes avaient eux aussi poster leurs hommes le long des routes. Ceux-ci remarquèrent que l'un ou l'autre des compagnons mangeait sans s'être lavé les mains. Il faut vous dire, pour comprendre la situation, que les pharisiens, comme tous les juifs d'ailleurs, tenaient à la tradition des anciens et ne mangeaient pas sans s'être préalablement lavé les mains, jusqu'au poignet, précisait le rite. En revenant du marché, par exemple, ils devaient d'abord s'asperger d'eau. Il y avait comme ça beaucoup d'autres prescriptions, nettoyage des coupes, des cruches et des ustensiles de bronze. C'est pourquoi ils soumettent Jésus à un interrogatoire. Pourquoi tes compagnons ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi mangent-ils avec des mains impures? Jésus commence à en avoir assez. Ah, Isaïe a été bien inspiré à votre propos, hypocrite, quand il écrivait « Ce peuple me glorifie avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi et il me rend un culte vain. » Tous ces enseignements ne sont que des paroles humaines. Vous négligez le commandement de Dieu, mais la tradition des hommes vous y tenez. Vous avez même été jusqu'à rejeter l'un pour conserver l'autre. Vous voulez un exemple? Eh bien voici, Moïse a dit « Glorifie ton père et ta mère ». Et encore, il mérite la mort celui qui me dit père ou mère. Mais vous, voilà ce que vous dites. Si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'aider, je l'ai déjà offert à Dieu. Vous vous l'autorisez à ne plus rien faire pour aider son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre propre tradition. Et j'en passe. Alors il se retourne vers la foule qui l'entoure et s'écrie « Écoutez-moi un peu. Rien de ce qui entre en l'homme ne peut le souiller, Ce qui le souille, c'est ce qui sort de lui. À bon entendeur, salut. » Et d'un pas décidé, il les plante tous là et rentre à la maison. Ses compagnons le suivent, et une fois rentrés, ils voudraient savoir ce que signifie cette dernière comparaison. « Alors, vous non plus, vous ne comprenez rien ? Vous ne voyez pas que tout ce que l'homme absorbe ne peut le souiller ? Cela ne lui entre pas dans le cœur, mais dans le ventre, et il l'évacue ensuite. » Mine de rien, il supprimait ainsi toute distinction superstitieuse entre aliments purs et impurs. Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille. Oui, c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises ruminations, lâcheté, vol, meurtre, adultère, profit, perversité, fraude, débauche, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie. Tout cela émane du dedans, et c'est ça qui souille les êtres humains.
Pas pris par l'adhésion profonde, devant la vérité de ses paroles, devant la vérité des situations, devant l'exaspération de ceux qui ne veulent pas comprendre et qui font tout pour que les autres ne comprennent pas, qui ferment leur cœur. Comment n'être pas complètement emballé par cet homme, entouré d'une douzaine de compagnons qui traversent le désert de la compréhension, la dureté du cœur, la fermeture de toutes les ouvertures possibles vers les autres, vers l'avenir, vers l'avant. Une fois éliminé, naturellement, une fois pour toutes, Jean, c'est vraiment son aventure qui se développe. Mais là, comme vous l'avez remarqué, il confronte les apôtres avec la difficulté de se faire comprendre et de se faire écouter. C'est tout le problème de la catéchèse, c'est tout le problème de la conversion, c'est tout le problème de la mission. Que va-t-il se passer ?
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.